c'est parti pour Big Bang en direct du Grand Palais à Paris. Avec mes invités, nous allons explorer la beauté des mathématiques et le rapport avec nos cerveaux. Lorsque j'étais en classe de 3e, je me souviens être assis en cours de mathématiques et de ne pas comprendre vraiment ce que mon professeur racontait. Je l'écoutais parler de triangles et de carrés, de règles et de compas. C'était un mercredi midi, il faisait beau dehors, et je savais que dans quelques minutes, j'allais sortir pour déjeuner chez mes grands-parents. Mais voilà, tout d'un coup, quelque chose que mon professeur a dit m'a interpellé. Il ne parlait non plus de triangles, mais de lignes. Et là, je n'ai plus rien compris. La fin de l'heure a sonné et je suis allé le voir pour lui poser une question. Je lui ai dit « Monsieur, je ne comprends pas ce qu'est une ligne droite. Est-ce que vous pourriez me le réexpliquer ?» Il m'a regardé, il a réfléchi un instant et puis il a dit la chose suivante. « Imagine que tu es sur la plage et imagine que tu as soudain une envie pressante. Tu fais quoi ? Tu vas dans l'eau. Et tu y vas comment ? Eh bien certainement pas en faisant une courbe ou un zigzag. Non, tu vas tout droit, tu vas vers l'eau en ligne droite. La ligne droite, c'est le chemin le plus court entre deux points. C'est ça, la définition. En rentrant chez moi, quelques instants plus tard, je me suis dit qu'il y avait deux conclusions à tirer de ce que venait de dire mon professeur. La première était que si je le voyais à la plage, il ne fallait pas que je sois dans l'eau près de lui. Et la deuxième était qu'aussi abstraite que les mathématiques puissent paraître, elle pouvait totalement avoir un aspect pratique. Les années sont alors passées et je me suis retrouvé après le bac. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à entrevoir ce qu'était la réelle puissance, la réelle beauté des mathématiques. Et c'est pour partager avec vous la joie que peut procurer cette discipline, pour découvrir ensemble comment, de fil en aiguille, en partant de la mesure de la surface d'un champ, on est arrivé à lire dans nos pensées. C'est pour tout cela que j'ai l'honneur de faire cette première émission Big Bang sur les mathématiques en compagnie de mes trois invités. Que voici ?
Maureen Claire, je suis directrice de recherche à INRIA, qui est l'Institut de recherche en sciences et technologies du numérique. Donc on y fait des maths et de l'informatique. Et moi j'aime les maths parce que ça nous permet d'expliquer le monde qui nous entoure.
Bonjour, je suis Stéphane Malat, je suis professeur au Collège de France et à l'École normale supérieure. Et je travaille en mathématiques appliquées plutôt à la théorie de l'information et maintenant à l'intelligence artificielle. Et je suis passionné par les maths aussi pour leur capacité à comprendre les grands problèmes du monde, à les abstraire et puis découvrir les structures qui sont derrière et ensuite avoir des applications assez impressionnantes. Et puis j'aime aussi beaucoup enseigner les mathématiques à l'université, mais aussi à l'école où je participe avec un projet MathaData pour essayer de redonner du sens parfois aux mathématiques avec les professeurs d'éducation nationale.
Bonjour, alors moi je suis Anna Novion, je suis réalisatrice de longs métrages et je ne fais pas du tout de mathématiques, mais j'ai fait un film qui s'appelle Le théorème de Marguerite et où les maths sont centrales dans l'intrigue et je pense qu'à travers ce film, j'ai mieux compris pourquoi les mathématiciens faisaient passer autant de temps à travailler sur des théorèmes, sur voilà. Et je pense que j'ai appris beaucoup sur la beauté qu'il peut y avoir dans les mathématiques.
Eh bien, Anna Novion, Stéphane Malat et Maureen Claire, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct du Grand Palais à Paris et en public. Et je suis ravi de partager avec vous cette nouvelle. Vous êtes 1,5 million à écouter Big Bang tous les samedis matins et c'est génial. C'est un immense honneur pour nous de vous parler de science toutes les semaines avec honnêteté, avec joie et bonne humeur. Et aujourd'hui, grâce aux mathématiques, nous allons voir s'il est possible d'explorer le fond de nos pensées.
France Inter. Christophe Galfard.
Anna Novion, j'avais envie de commencer avec vous. Alors oui, le théorème de Marguerite, film que vous avez réalisé et coécrit en 2023, m'a beaucoup touché, moi, parce qu'il y avait, je trouve, une douceur flagrante dans la façon dont vous faisiez le portrait, non seulement de votre héroïne, mais surtout des mathématiques qu'elle représentait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger comme ça dans le monde des mathématiques ?
Ça a été tout un chemin, en fait, parce qu'au début, je cherchais à raconter l'histoire d'un personnage qui se sent en décalage avec sa jeunesse, qui a l'impression de ne pas partager l'insouciance des jeunes. Et en fait, moi-même, j'ai été malade quand j'avais 20 ans et je me sentais très en décalage, en fait, avec les gens de mon âge. Et c'est en partant de ça, au début. Et je me suis dit, comment raconter ça? Et j'ai pensé aux grandes écoles. Et c'est en fait comme ça, en me baladant à l'école normale supérieure, que j'ai fait la rencontre, un peu par hasard, avec des mathématiciens. Et en fait, tout un monde s'est ouvert à moi. Il y a eu une rencontre qui a été absolument déterminante, qui est la rencontre avec Ariane Mézard, qui est une grande mathématicienne et une des rares, parce qu'il y a très peu de femmes quand même dans ce milieu. Et en fait, le film a pris un autre tournant, parce que au final, ce qui m'a beaucoup touchée chez elle, c'est la passion qui émanait d'elle. Et j'ai senti en fait assez vite qu'il y avait une vraie correspondance en fait entre mon métier de metteur en scène, de réalisatrice, et le métier de mathématicien. Parce que j'ai l'impression que c'est des métiers qui nécessite une vraie abnégation, une vraie passion, qui a comme un acte de foi, en fait, quand on veut faire des films. Parce que c'est tellement long, c'est tellement compliqué, ça demande tellement de travail, que s'il n'y a pas une nécessité absolue et une passion absolue, je ne pense pas qu'on puisse exercer ces métiers-là. Et j'ai l'impression qu'il y avait un vrai moteur commun, entre, en tout cas de ce que j'ai ressenti d'Ariane, et j'ai vraiment l'impression que, ouais, il y a eu un pont qui s'est construit entre nous et qui en fait m'a aidée tout au long de l'écriture.
Stéphane Mala, les mathématiques qui ont charmé Anna Novion et qui remplissent votre vie, celle, la vôtre aussi, Maureen Clair, et celle de nombreux chercheurs et chercheuses un petit peu partout, ces mathématiques sont bien nées à un moment dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que on a des traces de comment quelque chose qui paraît extrêmement abstrait a pu soudain passionner autant de gens?
Effectivement, on retrouve des traces des maths il y a à peu près 4000 ans dans des tablettes égyptiennes. Et là, on voit que les maths sont d'abord nées de questions sur des problèmes très concrets, comme calculer la surface de champ pour lever les impôts pour les Égyptiens. Et donc, ça a fait émerger toutes les bases de la géométrie ou des problèmes de commerce où on a commencé à utiliser des outils d'algèbre.
Peut-être que c'est pour ça que les gens n'aiment pas à la base les maths, parce que ça vient des impôts.
Alors, c'est effectivement une des motivations. Et il y en a eu d'autres. Par exemple, la construction des pyramides. Eh bien, vous avez une géométrie absolument extraordinaire et qui a utilisé des maths. Et en fait, on a vu à travers toute l'histoire des maths ces deux aspects. D'un côté, il y a eu cet aspect pratique, c'est-à-dire essayer de comprendre ces problèmes du monde en faisant une abstraction. Et puis aussi, il y a l'apparition extraordinaire des démonstrations, on parlait grec, Thalès, la géométrie d'Euclide, Pythagore. Et à partir de là, eh bien, vous avez eu une émergence de plein de branches des mathématiques à partir de problèmes qu'on rencontre, par exemple, au XVIIe siècle. C'était Newton qui a développé le calcul infinitésimal pour calculer la trajectoire des planètes, où on découvre tout d'un coup qu'il y a des ellipses qui décrivent la trajectoire de ces planètes. Vous avez ensuite toute la physique, la mécanique qui a donné lieu à beaucoup de mathématiques, avec Euler qui était derrière cette fameuse conjecture de ce très beau film de les théorèmes de Marguerite. Puis vous avez eu Joseph Fourier, où avec ces fameuses ondes qui permettent de comprendre la structure du monde et la décomposé pour, par exemple, comprendre la propagation de la chaleur. Ça, c'était sa motivation. Et en fait, c'est surtout à partir du XXe siècle qu'on a eu un peu cette séparation entre, d'un côté, des mathématiques dites pures et, de l'autre côté, des mathématiques appliquées, alors que vraiment les deux se parlent. Les mathématiques, c'est vraiment l'émergence, une façon de penser les problèmes du monde à partir d'abstractions. Une fois qu'on est dans ce monde d'abstraction, on découvre toutes les structures du problème. Par exemple, ces ellipses qui décrivent les trajectoires des planètes. Et une fois qu'on a compris ça, ce qui est très beau aussi dans les maths, c'est que le même concept se retrouve dans des domaines qui, en apparence, n'ont strictement rien à voir. Une ellipse, ça peut être une trajectoire d'une planète ou ça peut être la forme de votre tête. Et on a comme ça l'émergence de beaucoup de branches des maths. Et pour moi, C'est un des grands plaisirs des mathématiques, c'est d'être dans ce pont entre d'un côté des problèmes où il y a des vrais grands enjeux, même sociétaux, et de l'autre côté ce monde de l'abstraction où on découvre des structures où il y a une beauté absolument extraordinaire, mais qui permettent de penser les grands problèmes du monde, et c'est ce qu'on a vu à travers toute l'histoire des mathématiques.
Moi, il y a quelque chose que j'adore par rapport à ça, c'est qu'on part d'un problème pratique, c'est ce que vous êtes en train de raconter, et que mine de rien, en suivant un petit fil, un petit peu abstrait, on tombe sur des paysages intellectuels phénoménaux, gigantesques, qui parfois s'appliquent au réel, parfois pas, mais qui permettent des voyages intellectuels absolument somptueux. Maureen Clair, je vois que vous souriez comme si... Parce que je disais tout à l'heure que les gens n'aiment pas les mathématiques, mais en réalité, dès qu'on y touche un petit peu, ça met un sourire sur le visage.
Oui, c'est vrai que ça procure un plaisir de manipuler... Le langage mathématique, je trouve, parce que c'est un langage universel, les mathématiciens se comprennent bien entre eux, quelques, ou qu'ils soient dans le monde, mais aussi parce que c'est un langage qui va nous permettre aussi de parler avec d'autres disciplines. Et ça, je trouve l'interdisciplinarité qui est permise par les mathématiques, elle est fantastique. Je m'en rendais pas compte, en fait, au début, quand j'étais rentrée dans ce domaine-là, où je me disais, bon, si j'arrive à mélanger les maths et la musique, je serais déjà bien contente parce que j'aimais bien ces deux activités. Mais en réalité, c'est fou le nombre de choses qu'on peut toucher avec les mathématiques. Et ça, j'aimerais bien faire passer ce message-là, que faut pas en avoir peur, parce que ça ouvre des portes, ça ouvre énormément de portes, et donc on trouvera bien une porte qui nous fait plaisir.
Eh bien, je vous propose qu'on rentre, du coup, par une certaine porte dans les mathématiques, une porte qui vous tient particulièrement à cœur, Stéphane Malas, c'est la porte des ondelettes. C'est un des thèmes principaux, j'imagine, de vos travaux, et j'adorerais que vous nous expliquiez un peu déjà ce que c'est, avant qu'un peu plus tard, nous rentrions dans l'aspect pratique et de voir comment ils peuvent être utilisés. Elles peuvent être utilisées, ces ondelettes, pour rentrer dans nos cerveaux. Alors, que sont les ondelettes, Stéphane Malas ?
Alors déjà, ces ondelettes, à nouveau, elles ont émergé à partir de problèmes pratiques en physique, où on voulait explorer le sous-sol en envoyant des ondes pour voir s'il y a de l'eau ou du pétrole, en traitement d'images pour comprimer des images. Et dans tous ces problèmes... en musique, puisque Maureen en parlait, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était de comprendre les structures qui étaient derrière cette information. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ondelette ? Une ondelette, en quelque sorte, c'est une note de musique. Comment est-ce qu'on écrit une partition de musique ? Une musique, c'est avec une partition, et les notes, eh bien, elles peuvent avoir des durées différentes. Elles peuvent avoir des hauteurs différentes, et les notes de musique, ce sont des ondelettes. Et on peut, en écrivant ces ondelettes, ces notes de musique, décrire toute une mélodie. Et la question qu'on s'est finalement posée en mathématiques, c'est ces ondelettes qu'on peut utiliser pour la musique, est-ce qu'on peut aussi décrire une image, décrire un électrocardiogramme avec ce genre de structure. Et c'est là que, en passant dans ce monde de l'abstraction des mathématiques, on s'est rendu compte qu'effectivement, une ondelette, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite onde bien localisée. Eh bien, cette petite onde, dans le cas d'une image, elle va permettre de représenter la variation locale de l'image. Et quand vous voulez, par exemple, représenter le ciel où vous avez une intensité lumineuse uniforme, il n'y a pas de variation. C'est un peu comme un silence en musique. Vous n'avez donc pas besoin d'ondelettes. Et donc, du coup, cette image qui va être représentée par un nombre considérable de pixels, des millions, eh bien, vous allez pouvoir la représenter avec beaucoup moins d'ondelettes, parce que vous n'allez pas en utiliser là où il n'y a pas d'information. Et c'est comme ça que, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait comprimer des images, alors qu'au départ, ça n'a rien à voir avec la musique. Et puis, on s'est rendu compte que ces ondelettes, on pouvait les utiliser, comme je le disais aussi, pour l'exploration du sous-sol, en mécanique quantique. Et c'est comme ça que... on s'est rendu compte qu'on pouvait les analyser pour faire du diagnostic médical sur des électrocardiogrammes. Mais ce qui est important, c'est que au cœur de tout ça, ce sont les mêmes idées, les mêmes concepts mathématiques, et on peut voir ici les mathématiques un peu comme un art des correspondances, c'est-à-dire faire une correspondance entre des problèmes qui, en apparence, n'ont rien à voir, mais en fait, l'essence de ces problèmes, eh bien, c'est les mêmes idées, et ici, ce sont des ondelettes.
Si j'essaie de résumer un petit peu ce que vous êtes en train de dire par rapport aux ondelettes, C'est qu'imaginons qu'on ait une information, que ce soit sous la forme d'un signal, ou de la forme d'une image, ou de la forme de n'importe quoi qui nous parvient, si jamais ce signal est, ne change jamais, bon, bah, il change jamais, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais dès l'instant où il va se mettre à changer dans le temps, et qu'on veut le représenter autrement, le mettre dans un ordinateur par exemple, le mettre dans notre téléphone, c'est pas le son lui-même qui est là, c'est une représentation du son. Et vos ondelettes ont permis cela.
Exactement. Au lieu de les représenter de façon native avec les points de l'image, on va les représenter avec des ondelettes. Et quelle va être l'idée ? L'idée, c'est que le monde est représenté avec des structures qui apparaissent à différentes échelles. En physique, par exemple, il y a des atomes, puis il y a des molécules, puis il y a des structures de plus en plus grandes. Et bien, les ondelettes, ça permet de faire ça. Vous allez avoir des toutes petites ondelettes qui vont vous représenter des détails très très fins, par exemple de l'image, et puis des ondelettes un peu plus grandes qui vont vous représenter, par exemple, des structures plus importantes, comme les yeux à l'intérieur du visage, et puis une ondelette encore plus importante qui va vous aider à représenter les contours du visage. Et on découvre comme ça toute la structure du monde à travers les échelles, du plus petit au plus grand, et on obtient une représentation très parcimonieuse, autrement dit très efficace. Et du coup, si vous voulez stocker votre image dans votre ordinateur en utilisant moins de mémoire, eh bien, vous pourrez utiliser des ondelettes, et c'est ce qu'on a appelé le standard JPEG 2000. Mais si vous voulez la transmettre aussi plus efficacement, ou même si vous voulez découvrir l'information dans l'image comme les neurones, réseaux de neurones peuvent le faire, eh bien, on va passer par ce stade de la représentation avec ces structures à différentes échelles, avec des ondelettes.
Les réseaux de neurones que vous venez de mentionner, on en avait parlé dans une autre émission, notamment avec Eric Van Den Heijden sur l'intelligence artificielle. Anna Novion, d'entendre que comme ça, une représentation mathématique des choses donne finalement un film, en réalité. Oui. Est-ce que ça vous inspire quelque chose de savoir que les mathématiques ne sont pas pure abstraction, mais qu'il y ait un lien avec le monde réel?
Oui, alors moi j'ai l'impression que ce qui m'intéressait, c'était en fait plutôt l'abstraction. C'était ça que j'ai trouvé très beau, que j'ai un peu découvert à travers mes rencontres avec les mathématiciens. Et en fait, je dois avouer que j'avais presque plus de plaisir à les regarder parler qu'à comprendre ce qu'ils disaient. Pardon, ça donne peut-être pas très envie de faire des maths ce que je dis.
Ben, si c'est
mais
pour que vous
en
nous
fait,
écoutiez,
c'est vraiment... c'est ça en fait qui m'a passionnée, c'est de les voir écrire au tableau, c'est d'entendre la craie sur le tableau, les débits, d'entendre parfois quand ils écrivaient, quand ils écrivent vite, quand tout d'un coup ils prennent le recul pour regarder leurs résultats. Enfin, moi en fait c'est vraiment un travail d'observation que j'ai fait et je trouvais ça aussi tellement beau à filmer tous ces tableaux auxquels je ne comprenais absolument rien évidemment et qui formaient comme des tableaux abstraits. J'ai l'impression d'être face à, je sais pas, comme un tableau de Jackson Pollock. Enfin, je pensais vachement à de l'art abstrait. J'ai l'impression de qu'à travers, j'ai l'impression que c'était des œuvres d'art qu'on trouve à Beaubourg, quoi. Et ça m'a, c'est tout ça en fait que je me suis évertuée à filmer. Et en fait, c'est très étrange parce que dans mon film, il y a des mathématiques, il y a du mahjong, parce que les personnages jouent aussi au mahjong. Et je ne comprends absolument rien, ni des mathématiques, ni du mahjong. Et je devais filmer ça. Donc c'est un peu particulier, parce que enfin, d'habitude, on filme des choses qu'on connaît très bien. Et pour autant, c'est quand même un film qui m'est très personnel, qui parle vraiment de moi d'une manière très intime, je crois. Mais en fait, comme je ne comprenais rien, au début, j'ai essayé un petit peu de comprendre. Et puis très vite, j'ai vu que je n'y arriverais pas. Et donc je me suis dit, je vais m'évertuer à filmer de la beauté. Et c'est vraiment ça. Et en fait, je pense qu'au final, de ne rien comprendre m'a vraiment aidée à filmer et à me sentir inspirée à filmer les mathématiciens et les mathématiques.
Vous voyez, moi, personnellement, dans ma trajectoire d'étudiant, le côté « je n'y comprends rien », il était là au départ. Et petit à petit, ça s'éclaircit. Et petit à petit, on comprend ce que Stéphane Mala et Maureen Clerc disaient à l'instant, à savoir que il y a des liens, il y a des ponts, il y a une logique, il y a une structure qui est là et qui, parfois, miraculeusement, s'applique au réel. Et comme il y a des petites vibrations un petit peu partout dans ce que vous racontez, je vous propose d'écouter, avant de voir comment cela peut être appliqué à la lecture de nos pensées, « Good Vibrations » des Beach Boys.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Nous sommes toujours en direct avec mes trois invités, la réalisatrice Anna Novion, le mathématicien Stéphane Mala et la directrice de recherche Maureen Claire, et bien sûr le public du Grand Palais à Paris.
Big Bang.
Nous écoutions les Beach Boys et Stéphane Mala, vous aviez envie d'ajouter quelque chose peut-être sur ce que Anna Novion venait de nous raconter par rapport à l'écriture de son film?
Oui, moi j'ai aimé le film aussi parce qu'il montrait le côté émotionnel quand on fait des maths. En fait, on parle souvent de peur devant les mathématiques, mais quand on fait des maths, c'est un peu comme si on suivait un chemin et on a envie de grimper sur une montagne. Au départ, la montagne, on la voit de loin, elle fait peur. Et puis, petit à petit, on avance sur le chemin, on voit les aspérités et on découvre d'abord un paysage qui devient éventuellement de plus en plus beau, puis un chemin pour rentrer. Et quand on se relaxe un peu et qu'on regarde pas simplement cette montagne qui est très haute, eh bien, on avance petit à petit, on monte dessus. Et c'est pour moi ça aussi le plaisir des mathématiques et la beauté qu'on voit en chemin. Et je pense que ce qui est important, c'est simplement d'avancer, de se balader. Et petit à petit, on oublie ses angoisses. Et je pense que dans le film, c'est bien montré. Il y a des moments où tout d'un coup, malgré tout, on voit un précipice, on est bloqué, on a peur. Et puis, on prend du recul, on oublie les maths, on revient et tout d'un coup, on trouve un chemin. Et c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans les maths et beaucoup de plaisir dans ce cheminement. Donc c'était de ça dont je voulais parler parce que finalement le film parle beaucoup d'émotions et du lien avec la vie.
Et il y a une autre forme d'émotion dans les mathématiques qui, je sais qu'Anna Novion, vous adorez l'abstraction, mais il y a une autre forme de beauté qui est certaines applications qui peuvent avoir un impact sur nos vies. Et alors peut-être que certains d'entre vous savent, j'ai fait une thèse de doctorat il y a quelques années sous la direction d'un professeur qui s'appelle Stephen Hawking, qui était un chercheur anglais de cosmologie et qui avait la particularité d'être atteint de la maladie de Charcot, qu'il a gardé pendant extrêmement longtemps, et il a perdu l'usage de la parole complètement dans les années 1980. Et à partir de là, il devait parler, communiquer à travers un ordinateur, ce qui était très long. Et je me souviens qu'à l'époque, il nous avait demandé à ses étudiants de chercher, de nous renseigner un petit peu sur la façon de, s'il existait des moyens de communiquer sans utiliser son corps, car il ne pouvait plus utiliser ses muscles. Et nous avions regardé à l'époque s'il était possible de lire dans les pensées, ou en tout cas d'avoir une interface entre les pensées et quelque chose qui permettrait de communiquer. Et vos travaux sur les ondelettes, Stéphane Mallat, ont permis ce genre de choses aujourd'hui. Et il me semble, Maureen Clair, que ça fait partie des recherches que vous avez dirigées, en tout cas que vous menez à l'INRIA.
Oui, en fait, les maths, ça peut nous conduire à essayer de trouver des choses cachées. Ce qu'on appelle des fois des problèmes inverses, c'est-à-dire où les quantités qu'on cherche à observer, en fait, elles sont pas directement observables, mais avec le modèle mathématique qu'on va mettre sur le problème, en fait, on va réussir à jouer à des devinettes et à trouver des choses qui nous sont inaccessibles, à rendre quelque part sensible quelque chose qui est pas du tout sensible au départ. Hein. Et c'est vrai que j'ai pu commencer à travailler dans le domaine du cerveau, en fait, notamment grâce aux ondelettes, parce que l'activité cérébrale qu'on peut mesurer, donc par exemple avec un électroencéphalogramme, elle est très complexe. Il y a tellement de choses qui se passent dans un cerveau à un moment donné, hein, que pour arriver à trouver une activité d'intérêt dans le cerveau, il faut souvent répéter quelque chose un grand nombre de fois, et puis moyenner l'activité cérébrale sur toute cette nombre de fois pour qu'il en sorte en fait ce qui correspond à l'activité d'intérêt. Donc ça, c'est ce que font les expériences en psychologie, en fait, répétées.
L'activité cérébrale, c'est une activité électrique, là, en l'occurrence.
Alors oui, quand on parle d'électroencéphalogramme, effectivement, on regarde l'activité électrique, c'est celle qu'on arrive à mesurer, qui fait quelques microvolts en fait de différence, de variation en fait sur la tête. Et donc, en fait, c'est une activité qui oscille, comme les ondes dont on parlait tout à l'heure, donc des petites oscillations. Il y a un aspect spatio-temporel aussi, parce qu'il y a plein d'endroits d'où vient cette activité cérébrale, et puis on peut avoir plusieurs capteurs, donc essayer de voir d'où vient l'activité, quand est-ce qu'elle est plus ou moins forte, quand est-ce que ces oscillations augmentent, diminuent, etc. Puis de temps en temps, on a aussi des petits, un peu comme des petites tsunamis, des petites ondes un peu isolées aussi qui arrivent, mais elles sont très fugaces. Donc c'est pour ça que il faut des fois répéter plein de fois l'observation, en fait, pour en moyennant. Et avec les ondelettes, on avait trouvé un moyen de pas bêtement moyenner en fait les observations, mais de décomposer en ondelettes pour ressortir en fait des structures qui sont présentes, et puis regarder après à travers une représentation d'ondelettes, donc une espèce d'image temps fréquence, un peu comme la partition du cerveau, de l'activité cérébrale. Qu'est-ce qui revient? Donc, ces recherches-là, elles ont fini par me conduire à travailler à l'INRIA, parce qu'on est un institut où il y a vraiment tout un ensemble de chercheurs sur beaucoup de disciplines différentes liées aux maths, oui, et à l'informatique, sur l'interprétation en temps réel de l'activité cérébrale, c'est-à-dire sans avoir à moyenner justement plein de fois des expériences, en fait, arriver à choper au moment où l'activité est en train de se faire, qu'est-ce que c'est que cette activité.
Et on arrive à décrypter ces signaux, à les traduire dans, je sais pas, des images, des mots. Est-ce qu'on arrive jusqu'à cette précision-là à partir du signal électrique qui est vu par le prisme des ondelettes?
Alors, le signal électrique, ça dépend où est-ce qu'on peut le mesurer. Si on le mesure à l'extérieur de la tête, ce qui est le plus fréquent,
avec
une sorte de casque, voilà, eh bien, c'est quand même une activité très 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 résumée qu'on va réussir à avoir. Donc, on n'arrivera pas à décrypter des mots en train d'être prononcés dans la tête des gens, disons. Alors que si on arrive à mettre des électrodes beaucoup plus proches de l'origine de l'activité, là, oui. En fait, ça vient. Maintenant, en fait, on est capable de, si des gens sont en train d'imaginer prononcer une phrase et qu'on a les électrodes au bon endroit, etc., on peut effectivement retranscrire cette phrase.
Vous dites ça comme ça, là, mais c'est quand même quelque chose. On a l'impression que c'est comme aller acheter du pain le matin.
Non, malheureusement non, parce que c'est quand même très difficile d'avoir des électrodes dans la tête, n'est-ce pas? Donc, oui. C'est en fait le problème qui se pose, c'est un problème de capteur aussi. Voilà, c'est pas si simple d'aller équiper des gens pour qu'ils puissent avoir ça, s'ils en ont besoin, bien sûr. Comme votre patron de thèse qui en avait beaucoup besoin. Je sais qu'il avait utilisé un dispositif à l'époque très
grand public, hein, oui.
Voilà,
oui. De détecteur genre de mouvement,
voilà,
oui.
Et qu'il n'était pas très satisfait. Je comprends parce que ça ne marchait pas très bien. Mais en fait, on a eu l'occasion à Nice avec le CHU de Nice. On a eu une très belle collaboration dans laquelle 20 malades atteints de cette maladie de Charcot avaient pu venir essayer notre système trois fois chacun, je crois. Donc on avait eu 60 visites à l'hôpital pour regarder donc le décodage. Là, c'était d'un clavier, en fait, dans lequel les lettres que les personnes veulent taper ou les mots avec la complétion de mots, en fait, flashent. Et puis, au bout de quelques flashs, donc il y a encore quand même cette idée de répétition parce que le signal est assez noyé dans le bruit quand même. Donc, au bout de quelques flashs, on arrive à détecter, grâce à une onde qui arrive 300 millisecondes après le flash et qui est particulière et qu'on arrivait à classifier, à détecter pour les personnes, quoi. Eh bien, ils arriveraient comme ça à utiliser le clavier. Et je me souviens la grande émotion quand la première fois qu'on a fait passer l'expérience donc à une personne qui voulait l'essayer. En fait, elle a réussi tout de suite à écrire le mot qu'elle voulait. C'était merci. Alors là, c'est vrai que ces années d'efforts là, ouais. Qui se soldent par un merci, c'est très émouvant. Après, la petite frustration, c'est quand même de pas pouvoir mettre un système comme ça dans les domiciles des patients qui en ont besoin, parce que les capteurs, qui sont des électrodes, en fait, sont encore un petit peu compliqués à installer au jour le jour pour des personnes vraiment très diminuées.
Anna Novion, est-ce que vous voyez quand même l'impact en pratique de ces théories abstraites ?
Oui, oui, et puis c'est infini, en fait. On a l'impression que chaque avancée annonce une prochaine avancée, quoi. Et c'est assez vertigineux, en fait, parce qu'on se dit jusqu'où ça peut aller, en fait. Mais oui, en effet, là, quand vous parlez, on se dit qu'il y a quelque chose d'assez merveilleux. Ce merci est extrêmement
émouvant. Moi, il m'a ému, là, à l'instant.
Ouais, moi aussi.
Stéphane Mallat.
Et quand on pense à Stephen Hawking, il y a d'une certaine manière peut-être un double merci. Il y a d'abord cette capacité à pouvoir s'exprimer pour des gens qui ont ce Locking syndrome. Mais en même temps, les ondelettes, elles ont été utiles pour détecter les ondes gravitationnelles. Donc c'est les mêmes ondelettes, ça n'a rien à voir. C'est comprendre ces grandes interactions gravitationnelles. On a détecté il y a quelques années ces premières ondelettes gravitationnelles. Et donc là, à nouveau, on voit le même outil mathématique pour essayer de décrypter le cerveau et pour comprendre la physique d'un même homme extraordinaire, Stephen Hawking.
C'est ça, les ondelettes dont vous parlez, et même en mathématiques en général, l'idée que... Est-ce que vous aviez, quand vous avez commencé à travailler sur les ondelettes, est-ce que vous aviez la moindre idée de l'ensemble des applications que vos travaux pourraient avoir ?
Absolument pas. Moi, j'ai commencé par des problèmes de traitement d'image, donc ça a été mon chemin. Et puis en montant, ou plutôt en travaillant sur les mathématiques, c'est après que j'ai découvert l'énorme paysage qu'il y avait derrière. Mais je pense que chacun passe par un chemin intuitif qui est propre, et souvent qui parle de problèmes concrets qu'on comprend, qu'on sent, que les enfants sentent. Les enfants, ils ont tendance à avoir ce côté très physique. Et ensuite... on voit le paysage se découvrir, et c'est comme ça que moi, ensuite, j'ai découvert ces applications. Mais c'était pas là du tout au départ, et au départ, il n'y avait pas l'abstraction. L'abstraction, elle est venue après.
Je pense que, oui, Maureen Claire. Dans ce que dit Stéphane, je pense qu'on doit pouvoir sentir la liberté qu'on a aussi, un peu, en tant que chercheur et mathématicien. Ça offre quand même une assez grande liberté, en fait, d'avoir autant de chemins possibles. Alors, oui. Ça peut être un peu vertigineux aussi, hein, si vous arrivez à choisir parmi des chemins, mais après, c'est les rencontres qu'on fait. Je pense que c'est aussi, on ne dit jamais assez que la recherche, c'est aussi le fruit de beaucoup, beaucoup de rencontres et de vraiment de relations fortes humaines, hein, qui font qu'on a envie de travailler avec des gens. Hein. Tout ça, ça se fait en équipe aussi. Hein. C'est pas du tout quelque chose de solitaire, hein, la recherche.
Anna Novion.
Mais pour le coup, là, vous aviez vraiment envie de travailler sur le cerveau. Donc, c'était pas... Enfin, comment vous en êtes arrivé là, en fait ?
Non, pas du tout. Non. En fait, j'avais fait ma thèse avec ce monsieur à côté de moi.
Avec Stéphane.
Avec Stéphane. Voilà, qui m'a introduit.
Comme vous disiez au téléphone, on a tous les deux un Stéphane dans nos vies.
Exact. Donc, qui m'a introduite aux images, alors que moi je venais plutôt du son, hein, comme vous avez compris. Donc il m'a introduite aux images. J'ai rejoint une équipe qui faisait de la vision par ordinateur depuis 20 ans et qui commençait à se lasser, en fait, parce qu'ils avaient un peu fait le tour de ce qu'ils pouvaient y apporter et qui voulaient comprendre comment le cerveau voit pour après réinjecter les informations sur la vision humaine dans la vision par ordinateur. Et tout le monde dans l'équipe a pris le virage, a dit on va se mettre à s'intéresser au cerveau. Mais c'était un peu un hasard, en fait. Un hasard de rencontre. Et c'était c'est formidable après, parce qu'on a rencontré beaucoup de neuroscientifiques super passionnants. Après, j'y suis restée 20 ans, mais c'était pas prévu. Non.
Stéphane Malat, pardon.
Oui, c'est très important. C'est prise de hasard qui fait qu'on prend un chemin différent. Et les rencontres avec les gens, et ça c'est montré dans le film, c'est très important parce qu'on a tendance à être souvent bloqué un peu dans sa vision. Puis boum, tout d'un coup, on tourne. Et là, c'est passionnant aussi parce qu'on le fait avec d'autres gens.
Moi, j'ai quelques petites questions sur les ondes cérébrales là, qu'on arrive à lire encore. Et j'imagine qu'il y en a peut-être quelques-unes dans le public que nous allons prendre après avoir traversé le labyrinthe de nos pensées en écoutant Le Labyrinthe de Feu Chatterton.
Le temps d'une vie, cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis, marcher, courir, nous éreintes. Là, restons assis au milieu du labyrinthe, sans chercher d'issue. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Tu te promènes celle dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte, on tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Tu crois que tu vis, mais c'est ainsi qu'on meurt. Du piège où tu es pris, tu fais une demain. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Le labyrinthe. Yeah.
de ballon s'élève enfin l'enfant qui chantait à des faibles et un regard. Comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Nous sommes toujours en direct du Grand Palais à Paris avec le mathématicien Stéphane Malat, la directrice de recherche Maureen Clerc et la réalisatrice Anna Novion, ainsi que le public qui se prépare à poser ses questions. Et pendant que le décor nous tombe sur la tête, Julia a une première question. On t'écoute.
Bonjour, voici ma question. À quoi sert de nos jours la lecture de pensée ?
Maureen Clerc, est-ce que vous voulez répondre à cette question ?
C'est une très vaste question. Donc on espère que ça servira à des personnes qui n'ont plus le moyen physique de communiquer et donc de pouvoir leur permettre de parler en fait à travers de telles interfaces. C'est à ça qu'on espère que ça sert. Voilà.
Franchement, ce serait un atout phénoménal pour certaines personnes qui sont complètement coupées du reste du monde. Et ça, c'est magnifique d'avoir cette possibilité. Nous avons une deuxième question d'Eva.
Bonjour, voici ma question. Est-ce que l'IA permet de lire dans les pensées ?
Stéphane Malat.
Alors, l'IA permet en tout cas d'exprimer des pensées. En fait, on le voit maintenant avec des systèmes de langage comme ChatGPT, où toute la construction de la phrase, la langue qui structure la pensée, eh bien, on arrive à la représenter de façon mathématique à travers ces réseaux de neurones. Ensuite, leur utilisation pour lire les pensées, ça passe par le genre de processus que Maureen a pu décrire juste avant.
C'est ça, j'imagine que la question d'Eva, c'est si en utilisant ChatGPT chez elle, est-ce que l'ordinateur peut d'une certaine manière deviner et lire ses pensées ?
Maureen Clerc ? C'est statistique ce que fait ChatGPT, donc il peut peut-être statistiquement deviner si ce que vous écrivez c'est relié à certaines autres conceptions, certaines autres, c'est donc d'une certaine façon un peu, mais...
Mais il ne lit pas dans vos pensées. Et heureusement qu'il ne lit pas dans vos pensées.
Oui. Anna Novion, j'ai l'impression que vous aviez une question vous aussi.
Oui. Est-ce qu'on pourra lire dans les pensées indépendamment de la volonté des gens ?
Maureen Clerc.
Ça, c'est une question à laquelle je me suis beaucoup intéressée. L'éthique, là vous êtes en train de parler d'éthique des neurosciences dans laquelle on accède à l'activité cérébrale des gens. Donc pour moi, en fait, ce type d'interface doit pas être utilisé lorsqu'il peut y avoir un lien de coercition, c'est-à-dire dans le monde du... Enfin, pour moi, je préférerais que ça soit pas utilisé dans le monde du travail, parce que on se rend compte qu'on a des capteurs sur la tête, mais ce qui peut être fait avec ces capteurs-là, franchement, ça pourrait aller assez loin. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les comités d'éthique, en fait, réfléchissent à ça et limitent l'utilisation.
Pour pas que ça aille trop loin. Encadre vachement, quoi.
Encadre. Ouais.
Nous avons une question de Manon.
Bonjour, voici ma question. Selon vous, quels seront les grands défis mathématiques des prochaines années ?
Stéphane Malat.
Alors ça, c'est une question que s'est posée toute la communauté mathématique. Il y a un institut, par exemple l'Institut Clé, qui a défini comme ça 10 grands problèmes mathématiques, chacun rapportant pour celui qui le résoudra $1 million. Mais je peux vous donner des exemples. Par exemple, la conjecture de Goldbach qui consiste à essayer de montrer que n'importe quel nombre plus grand que 4 peut se décomposer comme une somme de deux nombres premiers, reste toujours une conjecture, un problème de maths. De l'autre côté, on parlait d'intelligence artificielle. Comprendre les mathématiques qui sont derrière, comprendre comment ces réseaux de neurones sont capables de répondre aussi bien quand on parle de ChatGPT ou de résoudre des problèmes de reconnaissance de diagnostic médical, ça met en jeu des nouvelles mathématiques et là c'est encore un grand défi. Donc les défis, il y en a absolument partout et ça c'est un des plaisirs, c'est que chacun peut trouver sa voie là-dedans.
Il y a quelque chose de... De mon point de vue, il y a deux domaines peut-être de mathématiques qui se rejoignent évidemment. Il y a celui qui est purement théorique, purement abstrait, dans lequel des problèmes émergent, des solutions peut-être aussi. Et il y a un autre problème qui est, comme vous le disiez au départ, qui est à la source même de l'origine des mathématiques, à savoir des problèmes en pratique par rapport à notre monde. Et dans les deux directions, des problèmes mathématiques émergent. Par exemple, en physique théorique, il peut y avoir ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs ou au Big Bang, où on n'a pas les mathématiques qui nous permettent de répondre à ces questions aujourd'hui. Mathématiques qui peuvent émerger soit de cette recherche-là, soit peut-être d'une recherche complètement différente. Et pour moi, parmi les plus grands mathématiciens et les plus grands chercheurs qui aient jamais existé, et il y a ceux qui ont réussi à faire des ponts entre des disciplines qui, au départ, n'avaient strictement rien à voir. Donc, quand on parle des grands défis mathématiques, en réalité, il y en a dans absolument toutes les directions. Et si tu as envie de faire des mathématiques plus tard dans ta vie, sache qu'il y a pas mal de boulot encore pour réussir à résoudre tous ces problèmes-là. On a peut-être une dernière question de Léna.
Bonjour, voici ma question. Est-ce que vous arriviez à comprendre ce que voulait Stephen Hawking sans qu'il ait besoin de son ordinateur ?
Alors, c'est une question pour moi. Au début, c'était un petit peu compliqué de comprendre ce qu'il voulait dire. Je pense que même s'il avait eu de la parole, ça aurait été compliqué de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais il se trouve qu'il a petit à petit développé lui aussi un langage qui lui permettait de communiquer avec son entourage. Et il y avait certains signes qu'on pouvait lire sur son visage. On apprenait ça petit à petit. Et au bout de quelques mois, plutôt quelques années, étant donné qu'on était 24 heures sur 24 en train de travailler sur ces théories, on commençait à avoir une intuition de ce que lui voulait dire, et ce qui nous permettait, avec des coups d'œil, avec des expressions en plus de son ordinateur, de comprendre certaines choses qu'il nous disait. Mais c'est marrant parce que d'une certaine manière, on a réellement pu communiquer avec lui. Et d'une autre manière, on se disait, mais quelle frustration de ne pas avoir les outils dont Maureen Clair a parlé pour pouvoir lire les pensées. Cela étant, il aurait probablement refusé quoi que ce soit qui soit intrusif dans son cerveau. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Maureen Clair, c'est qu'on n'a pas encore la sensibilité nécessaire pour pouvoir lire précisément ce qu'il pense lorsqu'on a ce genre d'outils. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Parmi toutes les applications des ondelettes, je vais vous faire écouter maintenant un petit son. Alors, je vais vous en faire écouter deux. Et l'idée, ce sera pour vous, Ananovion, d'essayer de voir la différence entre les deux. Alors, c'est pas très compliqué, mais j'espère que vous entendrez une différence entre les deux, car cette différence est basée sur le travail de Stéphane Mala. Nous écoutons le premier son, écoutez bien. Ça, c'était le premier son. Et maintenant, nous allons faire une petite pause, 2 secondes pour qu'il s'efface de votre mémoire. Et nous allons écouter quasiment la même chose, mais pas tout à fait. C'est parti. C'est quasiment la même chose, mais est-ce que vous entendez une différence entre les deux sons ?
J'ai l'impression que derrière la musique classique... une sorte de comme ça, de
absolument.
Tondelette.
Ça, vous l'avez casé parce que c'était le thème de l'émission. Mais...
Et j'ai l'impression que la rythmique n'est pas tout à fait la même. Voilà.
Alors,
qu'elle est plus présente dans la première et moins présente, qu'elle vient juste ponctuer dans la deuxième.
Eh bien, écoutez, je vois que Stéphane Mala a envie de répondre à la question, mais je vous propose d'entendre la réponse de ce qu'il y a eu comme différence entre ces deux sons. La réponse est de Martin Dufault, qui est étudiant à l'ENS Lyon et qui est à l'origine de ces deux sons et qui va nous expliquer ce qu'on vient d'entendre et la différence entre les deux.
Effectivement, ce qu'on entend, c'est une représentation de Mozart avec un bruit gênant derrière, c'est un bruit de tronçonneuse. Et ensuite, vous l'avez entendu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au mieux, éliminé ce bruit gênant, le bruit de tronçonneuse. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un débruitage du signal. Donc, comment ça fonctionne en pratique ? Ce qu'on fait, c'est que numériquement, on va nettoyer le bruit gênant dans le son pour avoir quelque chose de meilleure qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un signal audio à la base, c'est qu'une longue liste de nombres qui décrit l'état du son à chaque instant. Parce que finalement, on sait ce qui se passe à un instant T, puis à l'instant d'après, mais sans vraiment trop de recul. Et nous, on a besoin d'un outil pour analyser ce signal plus finement. On va le réécrire dans une sorte de langage plus riche, et ce vocabulaire supplémentaire, c'est justement les ondelettes. Donc une ondelette, en fait, on peut la voir comme une petite loupe, et quand on implique des ondelettes au signal, on obtient plusieurs couches de description. On va d'abord avoir une vue globale du signal, comme si on regardait le paysage sonore de loin, puis des couches de plus en plus fines qui zooment progressivement sur ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire les détails, les accidents, les petites irrégularités qui vont témoigner de ce bruit de tronçonneuse qui est rajouté. Et donc, typiquement, le débruitage, il va être intéressant parce que notre bruit parasite, il se manifeste pas en un point précis. Donc, la représentation numérique du signal à la base, elle n'est pas pertinente. Parce que ce bruit gênant, il intervient sur une petite plage de temps avec une forme irrégulière. Mais comme tout est mélangé, en fait, c'est illisible de regarder à chaque instant sans vraiment de recul, comme c'est le cas quand on a notre fichier audio sur notre ordinateur. Donc, on a besoin d'une représentation en ondelettes. Les irrégularités qu'on va voir à travers ces ondelettes, ces vagues anormales, on va les constater dans les couches de détails dont je parlais juste avant. Et en fait, grâce à ces couches de détails, on va les repérer beaucoup plus facilement. Dès que c'est fait, ensuite, il suffira de les atténuer ou de les supprimer pour récupérer un signal qui est bien plus propre.
Stéphane Mala, vous avez envie de réagir ?
Oui, parce que cette application qu'on voit ici, c'est vraiment le résultat de travaux de nombreux mathématiciens, y compris en maths pure, en analyse harmonique, en statistiques, en probabilité, et tout ça s'est retrouvé dans cette très belle application.
Merci. Alors avant de terminer cette émission, j'aimerais vous demander, cher public, trois ovations. Il existe en France une récompense scientifique plus extraordinaire que toutes les autres, une médaille qui récompense le travail d'un scientifique, toute discipline confondue. Elle est décernée une fois par an, c'est la médaille d'or du CNRS. Et cette année, figurez-vous que c'est Stéphane Mala qui en est le lauréat. Il recevra la médaille lors d'une cérémonie officielle le 17 septembre. Bravo à vous, Stéphane.
Merci beaucoup.
La première ovation est donc pour vous. La deuxième ovation, on va faire une deuxième ovation pour Maureen Claire, tout simplement parce que vous êtes extraordinaire et merci d'être là. Et enfin, la troisième ovation, cher public, elle est pour vous, Anna Novion, car aujourd'hui c'est votre anniversaire. Et du coup, toute l'équipe de Big Bang vous offre des chocolats. Nous arrivons à la fin de Big Bang. Nous étions au Grand Palais à Paris. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Martin Dufaux pour votre tronçonneuse et vos explications. Merci à vous, Anna Novion. Bon anniversaire. Merci. Bonne chance pour l'écriture de votre prochain film. Merci à vous, Stéphane Mala, et encore toutes nos félicitations.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Maureen Claire. Les deux volumes de votre livre, Les interfaces cerveau-ordinateur, sont disponibles chez East Edition. Et merci au public si nombreux du Grand Palais et à Didier Fusillier et à toutes ses équipes pour nous avoir accueillis ici. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher à la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert à la production, Benjamin Chauvin à la technique, Hélène Langlois, Olivia Branger, Jérôme Ragano, Thomas Robin et Florent Layani. Il y a du monde dès que nous sommes en extérieur. Au partenariat France Inter, Raja Boudni, merci beaucoup, et à la préparation et à la programmation, Élodie Royer. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une émission autour des trous noirs où nous entendrons ce que les ondelettes ont permis de faire lorsque deux trous noirs se rentrent dedans. Stéphane Mala, ce qui nous permet de décrire de quoi, ce qui se passe à des milliards d'années-lumière de nous.